Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra, elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, et il prit chez lui son épouse. Après la personne de Jean-Baptiste, dimanche dernier, c'est celle de Joseph qui nous est proposée aujourd'hui par l'Évangile, avec ce récit de l'Annonciation faite à Joseph. C'est ainsi qu'on pourrait l'appeler. On connaît bien le récit de l'Annonciation faite à Marie. Mieux, on l'entend souvent dans la liturgie, mais ici c'est l'Annonciation faite à Joseph. On nous dit que Joseph a longuement et mûrement réfléchi. Il a réfléchi et il a décidé, il a formé un projet dans son cœur suite à ce dont il s'est aperçu, à savoir que Marie était enceinte. Ça l'a profondément bouleversé et ça l'a obligé à faire tout un cheminement intérieur et à considérer qu'il était comme mis de côté, en quelque sorte, comme exclu de cette paternité qui s'annonçait, de cette maternité qui s'annonçait, et il ne trouvait plus sa place en quelque sorte, donc il a préféré se retirer. C'est ainsi qu'on peut interpréter de façon la meilleure ce qu'on a appelé le doute de Joseph. Très sincèrement, je ne crois pas que Joseph ait douté de la pureté de Marie, de la fidélité de Marie. Très sincèrement, je ne crois pas. Nos esprits un peu gras glissent facilement dans une interprétation de ce genre-là. Il ne manque pas de plaisanteries déplacées à ce sujet, mais c'est véritablement méconnaître ce que l'Écriture nous dit. Regardez, l'évangéliste Matthieu nous dit « Joseph, son époux, qui était un homme juste ». Or, en termes bibliques, on sait bien que le juste, c'est celui qui est accordé profondément à la justice de Dieu, à la sainteté de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc c'est un critère de sainteté en quelque sorte. Joseph est un homme juste, est un saint. Et donc il a mûrement réfléchi et il a préféré agir non pas publiquement mais en secret et donc de se séparer de Marie. Et le récit nous dit qu'il avait formé ce projet. C'est vraiment souligné que ça a été quelque chose de consistant pour lui. Et c'est à ce moment-là que Dieu est intervenu à travers l'ange du Seigneur qui lui est apparu en songe et qui lui a annoncé en quelque sorte que c'est lui qui devait être le père légal de cet enfant. C'est lui qui devrait l'éduquer, c'est lui qui devrait lui donner son nom, Jésus. C'est lui qui devrait être à côté de Marie pour former une véritable famille et veiller sur Jésus et à l'éducation de Jésus. Par deux fois dans ce passage de Matthieu, on lui dit que l'enfant vient de l'Esprit-Saint. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. C'est dit une fois par l'ange et c'est dit une autre fois par l'évangéliste. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Cet évangile nous permet peut-être réaffermir notre foi en la naissance virginale de Jésus, en la conception virginale de Jésus. Vous avez remarqué que l'évangéliste Matthieu fait appel au passage d'Isaïe qu'on a lu en première lecture. Isaïe nous rapporte un épisode où le roi Akaz était un peu déprimé et le Seigneur lui a dit « Je vais te donner un signe ». Puis Akaz a boudé, il a dit « Je ne veux pas de signe ». Et Dieu a dit « Mais enfin, je te donnerai quand même un signe ». Et ce signe, ça a été le fait que sa femme a été enceinte et a donné naissance à Ézéchias, son successeur, qui a été véritablement un roi saint en Israël. Donc on nous dit, voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, de crème et de miel il se nourrira, il saura rejeter le mal et choisir le bien. Donc c'est l'annonce d'une naissance de lignée royale. Mais ce n'est pas l'annonce directement de la venue du Messie, mais le mot, le nom Emmanuel qui est contenu dans cette prophétie a été interprété par la suite comme étant l'annonce du Messie, de Dieu avec nous. Et l'évangéliste Matthieu, lorsqu'il passe de l'hébreu au grec des Septante, traduit non plus la jeune femme est enceinte, mais voici que la Vierge est enceinte. Il est employé dans la traduction grecque de la Septante, qui a été faite un siècle avant Jésus, même pas, dans les dizaines d'années qui ont précédé, et qui est cité ici, le mot « Vierge ». Et c'est donc pour lui clair qu'à travers l'annonce qui était faite dans l'Ancien Testament, c'était vraiment la naissance, la conception virginale de Jésus qui était annoncée à travers Marie, par la puissance de l'Esprit-Saint. Et on nous montre Joseph, donc, qui a mis toute sa vie au service de Dieu, de toute façon, se montrer véritablement quelqu'un de sage et d'obéissant en faisant ce qui lui est demandé. Il fit, un simple mot, c'est pas très compliqué, dans le texte biblique, il a fait. Voilà. Le mot « faire », d'ailleurs, dans la Bible, c'est véritablement le mot de l'action. Il est dit quelque part dans le même prophète Isaïe, « La parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, elle est dans tes mains pour la faire. » On traduit, elle est pour que tu la mettes en pratique, évidemment, mais « faire », voilà. Et Joseph a fait ce que Dieu lui demandait, c'est-à-dire qu'il a accepté d'endosser la paternité légale de cet enfant qui ne venait pas de lui, qui venait de Dieu, et d'être aux côtés de Marie pour le faire grandir et le faire entrer dans sa mission de fils de Dieu fait homme, ce n'est pas rien. Et on s'aperçoit dans les deux cas, au fond, que Joseph est renoncé à Marie ou que Joseph est accepté d'endosser la paternité de Jésus. Il y a chez Joseph une très très grande humilité, une très très grande disponibilité à ce que Dieu demande. Et Joseph est un homme dont on n'a aucune parole dans la Bible, aucune, grand silencieux. Marie, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 7. Joseph, il n'y en a aucune. Mais on voit que c'est un homme d'action et d'action selon la volonté de Dieu. Alors peut-être nous pouvons ainsi, dans ces temps qui précèdent Noël maintenant, affermir à travers ce passage de l'Écriture qui nous est proposé aujourd'hui, notre foi en la divinité de Jésus. Il n'est pas un sage. Aujourd'hui, malheureusement, on a tendance souvent à rabaisser Jésus à un grand sage. Je voyais encore quelqu'un cette semaine qui me disait « J'ai chez moi deux statues du Bouddha, puis une statue de la Vierge, et j'ai fait des stages de bouddhisme, etc. » Bon, très bien. Mais je dis « Jésus, c'est beaucoup plus qu'un grand sage, c'est Dieu fait homme, Dieu incarné, Dieu parmi nous. » Et sa parole est divine, son existence est divine, sa présence est divine. Puissions-nous donc accueillir Jésus à travers l'enfant de la crèche, non pas comme le révélateur de la fête des enfants, c'est sympa, c'est gentil, mais vraiment le Dieu qui vient à notre rencontre et qui se fait tout petit, tout impuissant, tout faible, pour venir nous servir et nous manifester la grande miséricorde du cœur du Père.